Ça,
c'est jazz. Bebop,
free jazz.
Jazz rock,
big band.
Hard bop,
ethno jazz.
Swing,
jazz manouche.
Jazz fusion,
bossa nova.
Cool jazz,
jazz vocal.
Ça, c'est jazz.
Ça, c'est jazz.
Salut à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Saint-Afrique. Salut Bruno.
Ouais, salut Nico. Bienvenue dans Ça, c'est jazz.
C'est la 20e et c'est une émission consacrée à John Coltrane.
Ouais, enfin, depuis le temps qu'on en parle, John Coltrane, cette fois, ça y est, on se mouille, on y est.
Voilà, Dieu est parmi nous, voilà. Dans les studios, pas virtuellement en tout cas.
Ouais, c'est clair. Moi, je me crucifie, s'il vous plaît.
Ouais, voilà, mais c'est ça. Mais bon, son âme est bien là, avec nous. Donc, John Coltrane, Bruno.
John Coltrane, ouais, on en parle de temps en temps, parce que c'est quand même un monsieur qui a marqué non seulement le jazz, mais la musique en général, et durablement. On fait cette première émission un peu chronologique, il y en aura
d'autres
qui vont suivre, parce qu'il y a tellement de choses à dire.
Ouais. Donc là, on a décidé arbitrairement de se consacrer sur la première période de sa carrière, à savoir fin des années 50.
Voilà, ouais. On va s'arrêter, on prend le début de sa carrière, on s'arrêtera à un moment clé pour reprendre sur une émission
prochaine,
prochaine,
voilà.
Pour la suite des aventures de John Coltrane.
Alors, John Coltrane, né le 23 septembre 1926 à Hamlet, en Caroline du Nord, aux States, évidemment.
Ouais, il n'a pas vécu très très longtemps, hein, puisqu'il est mort à 40 ans en 67, en juillet 67.
C'est ça.
Il est mort, d'avoir trop consommé, trop mangé, trop bu, pendant pas très longtemps, mais en grosse quantité.
Oui, c'est ça. Ouais, comme beaucoup de jazzmen, hein, d'ailleurs. Hein.
Ouais, je crois qu'il a battu le record, là. C'est
ouais, probablement.
Un truc de fou.
Et donc, on a décidé de vous balancer un premier morceau dans lequel il n'est pas leader, dans lequel il est sideman.
Il est sideman, ouais, parce qu'en fait, John Coltrane, il a commencé en fait par la clarinette vers 15 ans, donc pas très très tôt, hein, pas gamin comme certains qui ont démarré à 4-5 ans.
Non, c'est vrai. Ceci dit, ses parents étaient musiciens, pas professionnels, mais musiciens tout de même.
Musicien, ouais, et mélomane. Et du coup, il a attaqué la clarinette et rapidement, il est passé au sax. Il a joué avec plein de monde, il s'est retrouvé à l'armée comme clarinettiste. Et quand il est rentré, eh ben, il est allé jouer d'un peu de partout. Il a suivi des écoles, il s'est formé. Il s'est beaucoup formé tout seul en allant jouer avec tout le monde, avec évidemment Dizzy Gillespie et le grand Charlie Parker. Quand il a vu Charlie Parker, il a dit « Ah ouais, d'accord. »
C'est ça que je veux faire.
Voilà, c'est voilà. Ça.
Et
quand
donc,
je serai grand, je ferai ça.
Ouais, tout à fait. Pardon. Et donc, en 1900, enfin, milieu des années 50, en 55-56, il commence à enregistrer avec Miles Davis. Et le morceau qu'on vous propose d'écouter s'appelle « Round Midnight », qui est un morceau de Thelonious Monk, qu'il a enregistré, donc on l'a dit, en tant que sideman. Voilà, c'est paru en 1957, et puis c'est un des premiers albums remarquables sur lequel il paraît en tant que saxophoniste.
Tout à fait, ouais. Miles l'a bien perçu. En fait, il l'a croisé dans un bar, et quand il l'a entendu jouer, il n'était pas encore ce qu'il est devenu après. Mais Miles, avec son instinct habituel, a dit « là, il y a une perle ». Et il avait bien vu. On peut se l'envoyer tout de suite.
Ouais, tout à fait. Juste précision, donc c'est un morceau sur lequel Miles Davis est leader. Donc vous allez voir, il y a d'abord un grand chorus de trompette, puis le chorus de sax de Coltrane qui vaut le détour. C'est parti, Miles Davis et John Coltrane, Round Midnight.
Thank you.
C'était Miles Davis à la trompette, John Coltrane au sax ténor, Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et Philly Joe Jones à la batterie. Dans un enregistrement qui date des années 55-56, qui est sorti en 57, Round About Midnight.
Ouais, c'est un disque qui a fait du tabac quand même. Hein. C'est un peu là où Coltrane a commencé à se faire réellement entendre, où les gens commencent à dire « Ah, d'où sort ce son de saxophone ?»
Ouais, tout à fait. Et on enchaîne avec un autre morceau dans lequel Coltrane est sideman, parce que bah, en fait, c'est le cas de la plupart des musiciens de jazz, hein, d'abord de jouer, d'enregistrer auprès de grands noms du jazz pour devenir leader à leur tour quelques années après. Coltrane n'a pas échappé à cette règle-là. Et du coup, on vous propose d'écouter un morceau de Thelonious Monk.
Ouais, Thelonious Monk, donc on a déjà parlé un petit peu de Thelonious Monk dans les émissions qu'on a fait sur les pianistes. Mm-hmm. Thelonious Monk, c'est quelqu'un d'extrêmement inventif qui a énormément influencé Coltrane sur l'harmonie, sur l'approche musicale.
Mm, c'est vrai.
Je pense que Coltrane, il trouve vraiment ses billes dans cette époque-là, dans le sens où, avant, il y a le bebop, qui est une musique rapide. Qui est une musique qui est destinée au départ à faire danser.
Ouais, tout à fait, ouais. Dans les clubs.
Dans les clubs, tout à fait, ouais. Il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque. Hein. Mmh. Et du coup, on arrive à la saturation du bebop. Il y a des nouveaux mouvements qui se lancent doucement, donc ça va être le cool, et ensuite, par Coltrane, le hard bop. Mmh. Mais Coltrane trouve chez Miles un travail de l'harmonie et de l'espace, cette façon qu'a Miles de se placer dans le temps bien particulière. Ça, pour Coltrane, c'est super important. Parce que ça lui donne une autre approche musicale par rapport au bebop. Et Monk, bah c'est sur l'harmonie, parce que Monk est hyper riche. Et Miles, par exemple, dit que Monk est génial, mais il supporte pas de jouer avec lui, mm-hmm. parce que c'est trop instable comme harmonie. Et Coltrane, par contre, adore. Il dit c'est génial, c'est l'ouverture.
Eh ben oui. Eh ben donc du coup, on va les écouter jouer ensemble. Thelonious Monk au piano, Coltrane au sax ténor, toujours. C'est William Moore à la basse et Shadow Wilson à la batterie. Ça s'appelle Ruby My Dear. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de Ça, c'est Jazz sur Radio Saint-Afrique, dans une émission consacrée au saxophoniste afro-américain John Coltrane. Surnommé Train, d'ailleurs.
Ouais. Comme Blue Train.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, il a fait beaucoup de jeux de mots ensuite sur des titres, notamment d'albums avec son nom. Ouais.
On est en
1957. 57, hein, on dirait pas comme ça, là. Mais voilà.
En 57. La vie de Coltrane à ce moment-là, des gens qui l'entourent, c'est quelqu'un qui passe son temps à bosser l'instrument. Hein. Miles dit quand il l'a rencontré, donc après dans ces années-là, il bossait 15 heures de sax par jour.
Oui, ce qui était quand même mieux pour lui, parce que de toute façon, à cette époque-là, s'il ne bossait pas, il se shootait. Hein, donc,
De toute façon, ouais, il se shootait en même temps, d'ailleurs.
Ouais, hein, voilà. Ouais, son truc, c'était l'héro. Donc, il y allait fort quand même. C'était pas un petit joint de temps en temps comme
ouais,
ça.
Ouais, non, il y allait très très fort. Les restes, les membres du groupe disent qu'il était capable de récolter les sous pour les doses de tout le monde et de s'enfiler les 5 doses et de venir jouer après.
Mmh. Ouais, sympa.
Je pense que, ouais, le truc au secours, quoi, ça fait des gros problèmes. Je pense qu'il y avait un côté un peu. Ça devait être un sacré bonhomme. C'était un grand gaillard, hein, costaud, bon comme le pain. Il paraît hyper gentil. Il paraît que c'était vraiment le.
Bon comme le pain, quelle belle expression. Bon,
hein, c'est pas mal, hein,
bon comme le pain. Ouais.
Comme le pain complet, avec mon frère. Tiens. Ouais. Mais en tout cas, un personnage apparemment connu pour sa gentillesse, sa bonté, hyper humain. Et qui est devenu ensuite très religieux.
Justement, enfin, c'est pas sans lien avec justement sa consommation de drogue dans les années 50, parce que ça lui a valu tout de même d'être viré de plusieurs groupes dont il a fait partie.
Ouais.
Et justement, en 57, Coltrane a une sorte de révélation mystique. Alors, je vous le cite, il dit lui-même qu'au cours de l'année 1957, j'ai fait l'expérience, grâce à Dieu, d'un éveil spirituel qui m'a mené à une vie plus riche, plus remplie, plus productive. À cette époque, j'ai humblement demandé que me soient donnés les moyens et le privilège de rendre les gens heureux à travers la musique.
Ouais, je crois que ça, c'était vraiment son credo. Pour lui, sa musique, c'était un lien entre l'être humain et la spiritualité, quoi.
Ouais, il y avait une recherche de fraternité à travers sa musique.
Ouais.
Quelque chose qui pouvait lier les hommes. Et du coup, il a eu un rebond, là, en 57. Et c'est vraiment l'année où il a multiplié les enregistrements en studio et l'année où il a commencé réellement à percer en tant que leader.
Ouais.
On l'a entendu, là, dans deux morceaux dans lesquels il était sideman. Et on va l'écouter maintenant dans des morceaux où, justement, il prend pleinement sa place de leader au sein du monde du jazz, quoi.
Ouais, il est leader réellement en tant que tel. Il commence à être connu. Les gens se rendent compte que c'est quelqu'un qui va faire une carrière énorme. On s'aperçoit qu'il a un son. Je ne sais pas si vous avez remarqué en écoutant. Il a une attaque qui est bien particulière, quand même, qui est bien franche, bien précise.
Ouais, on parle de notes de son aussi, en parlant du jeu de Coltrane, avec toutes ces notes qui s'enchaînent, un peu comme un torrent musical.
Oui, c'est espèce de petit, on le reconnaît bien, c'est espèce de petites phrases très rapides, là, qui sont super bien placées.
Mm-hmm.
Ça, c'est vraiment des Coltrane crachés qu'il a tiré de par cœur, mais que lui, il a mis aux quatre épingles, quoi. Parfait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, là, on va pouvoir écouter à nouveau ça. On vous a choisi le premier morceau qu'il a enregistré sous son nom, sur un album qui s'appelle sobrement Coltrane en 1957 et qui est paru sur le label Prestige, avec lequel il a signé à l'époque. Le morceau s'appelle Bacaille, alors c'est pas lui qui l'a composé, on vous fera écouter après le morceau dont il est aussi compositeur. Et ce morceau est assez sympa parce qu'il est accompagné de Johnny Splone à la trompette et de Saïb Chiab au sax baryton.
Baryton, ouais, ouais.
Voilà.
Référence au baryton, vous en souvenez?
Il y a une petite émission de Ça c'est Jazz sur le baryton, n'hésitez pas à aller voir ça en podcast sur le site de la radio.
Ouais, vous pouvez les écouter, les émissions en podcast, hein, profitez.
Bon, bah, on va écouter ça.
C'est parti.
Ça s'appelle Bacaille. Thank you. C'était John Coltrane au saxophone ténor dans le morceau Bakai, qui signifie apparemment pleure en anglais, j'allais dire n'importe quoi, en arabe. Ouais, Bakai, voilà. Bref.
Ouais, Bakai, oui, bah, déjà, ça note l'influence de Coltrane pour aller voir des choses ailleurs. Hein. Il a adoré Ravi Shankar. C'est beaucoup penché sur plein de cultures.
C'est vrai. Oui, puis le retour au continent africain aussi. Ouais, il fait partie de ces jazzmen américains qui sont allés chercher, sont allés puiser leur inspiration auprès de ce continent d'origine. Quoi. Oui, c'est clair. Ouais.
Ouais, c'est un adepte fervent de Martin Luther King. Mm-hmm. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas militant dans l'acte. Il ne va pas faire des manifs, quoi. Mm. Par contre, il est dans des idées, dans sa musique. Il a très envie de faire passer un message de liberté pour sortir la communauté black du bourbier où les blancs l'ont foutu, quoi.
Oui, ouais, non, c'est clair. Il utilise sa musique, pas que pour ça, mais aussi comme un moyen de faire valoir les droits et la parole des Noirs aux États-Unis. Ça, c'est clair, quoi. Mm. Et justement, puisqu'on parle de ça, c'est très bien, on va maintenant écouter un morceau qui s'appelle Bass Blues. Et donc on reste dans cette idée de musique originelle afro-américaine, avec le blues dont s'est beaucoup, beaucoup inspiré Coltrane.
Ouais, c'est vraiment ses racines. Hein. C'est sûr que le blues, pour lui, c'est une base hyper importante, même s'il l'a fait évoluer dans tous les sens. Hein. Il y a un album d'ailleurs qui est sorti un peu plus tard qui s'appelle Coltrane Plays Blues.
Ouais, tout à fait.
Et c'est vachement intéressant de voir de quelle manière il retravaille la... Alors, il faut le dire quand même, le blues, c'est, on va dire, un type de grille un peu spécifique. Hein. Il y a une cadence particulière, voilà, un enchaînement d'accords un peu spécifique au blues. Lui, il prend ça et il l'utilise de plein de manières différentes, avec une richesse étonnante. Vu que c'est un gars qui passe son temps à étudier et à bosser, forcément, bah, il ouvre des tas de possibilités. C'est ce qui fait la grandeur de John Coltrane, de toute façon.
Ah ouais, tout à fait. Bah là, de toute façon, je pense que les auditrices et les auditeurs vont bien se rendre compte de ce côté bluesy qu'il y a dans le morceau qu'on va écouter, qui est un morceau qu'on le retrouve sur son second enregistrement sous son propre nom, toujours sur le label Prestige, et toujours pendant cette année 1957, qui a été, je le rappelle, une année vraiment très prolifique pour Coltrane. Donc là, il est accompagné de Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et Art Taylor à la batterie. C'est un morceau, oui, et c'est un morceau qu'il a composé, voilà, parce que pour l'instant, oui, on avait écouté que des morceaux d'autres compositeurs qu'il interprétait, et là, c'est un morceau pour lequel il est compositeur aussi.
Oui, voilà. Là, pour la première fois, il se retrouve un peu avec des musiciens un peu nouveaux. Jusqu'à présent, Percy East, Hall East, ça, c'est des amis d'enfance, hein, contrebasse, batterie, c'est des amis, en fait, de sa jeunesse, quoi, avec qui il a toujours joué un peu. Là, il sort un peu de tout ça, il rentre sur la scène complètement américaine, en vogue.
Et juste, je rajoute, il y a un petit chorus de contrebasse à l'archer qui vaut le détour aussi.
Ouais,
voilà.
C'est
bon,
sûr.
Bon, allez, on envoie.
C'est parti.
Bass blues. Et vous êtes toujours en compagnie de Bruno et Nico dans Ça c'est Jazz sur Radio Saint-Taf, évidemment.
Voilà. Et on dédie à John Coltrane.
Ouais, ouais, l'émission consacrée à John Coltrane. La première. On a dit qu'on en ferait plusieurs, hein, chers auditeurs. Voilà. Donc, tenez-le-vous pour dit. C'est comme
ouais.
ça qu'on dit.
Ouais, hein, c'est comme ça. Ouais. C'est bien dit.
Non, mais à la radio, c'est chaud. Il faut enchaîner. Hein. On n'est pas des musiciens pros, nous, comme Coltrane.
Pour enchaîner grave, ouais.
Voilà, donc c'était le morceau Bass Blues sur le second album de Coltrane en tant que leader, enregistré sur le label Prestige, qui est le premier label chez qui Coltrane a signé, en tout cas pour sortir des albums en tant que leader. Et à ce sujet, on voulait un peu expliquer comment fonctionnent les labels de jazz, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe, mais qui a un rôle déterminant dans la production et la distribution des albums.
Et leur carrière, et la carrière d'artiste.
Et du coup, de la carrière des artistes, ouais, c'est clair. Voilà, donc Coltrane a été sous contrat chez Prestige, et il a enregistré plusieurs albums dont il a géré toute la conception jusqu'à la sortie. Mais il a aussi enregistré tout un tas de morceaux quand il était sous contrat sous Prestige, qu'il n'a pas publié sur des albums et que Prestige, par contre, s'est empressé de publier une fois que Coltrane a vraiment percé, était vraiment connu et dans le milieu du jazz. Voilà, et malgré le fait qu'il ne soit plus sous contrat avec eux à cette époque.
Oui, mais donc il jouait tellement, il jouait beaucoup, il adorait jouer, et il jouait beaucoup, 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 et ils ne sont pas fous, hein, les producteurs, ils ont vu l'animal, hop, 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 ils ont gardé les bandes, et puis quand il est parti, ils ont ressorti...
Oui, non, mais c'est ça, mais pour vous donner une idée, en gros, il doit y avoir à peu près 5 albums officiels de Coltrane chez Prestige, et une dizaine non officiels que Prestige a quand même sorti après, ce qui est pas négligeable, quoi.
Alors, non officiels, c'est quand même des bandes original de Coltrane, mais sans son accord, quelque part.
C'est enfin, ça.
Ils ont sorti, eux, pour se faire des sous.
Oui, 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 clairement.
Tant mieux pour nous, hein, il y a des super albums.
Hein. Tant mieux pour nous, ouais, tant pis pour eux. Et pour la petite histoire aussi, donc toujours dans cette année 1957, Coltrane enregistre un album chez un autre label, un célèbre label de jazz, qui est Blue Note. Et en fait, c'est assez particulier parce que justement, Coltrane n'a enregistré qu'un album sur ce label, alors que la plupart des artistes de jazz, reconnus, enregistrent un certain nombre d'albums chez Blue Note. Hein.
Bah, Blue Note, ils ont vraiment créé leur label dédié au jazz. Hein.
C'est vraiment un label complètement. Le nom aussi, Blue Note, c'est pas pour rien.
Voilà. Et curieusement, il a fait qu'un seul album qui s'appelle Blue Train, qui a pas mal marché.
C'est
qu'on
ça.
Va pas entendre.
Non, qu'on vous recommande vivement d'écouter, chères auditrices et auditeurs curieux. Et on va enchaîner, on va terminer l'émission consacrée, donc cette première émission consacrée à la carrière musicale de John Coltrane, avec un morceau de l'album Kind of Blue de Miles Davis. Donc là, Coltrane est à nouveau sideman, mais Bruno, tu me disais tout à l'heure.
Et ben en fait, ouais, en fait, donc le premier morceau qu'on a écouté de cette émission était déjà de Miles Davis, hein, donc Coltrane étant. Sous contrat, on va dire, chez Miles, embauché par Miles, qu'il a dégoté dans un troquet, en train de jouer, voilà, hop, il a dit, hop, viens par là mon gars, ça va être une perle, hein. Et Miles l'a viré du quintet, ce qui a été dramatique pour Coltrane, c'était la grande claque, il s'était déjà fait virer 2-3 fois ailleurs, là c'était la grosse claque, parce qu'il était tout le temps complètement défoncé, c'était impossible. Et Miles raconte quand même, sur une séance d'enregistrement, ils attaquent l'enregistrement, Coltrane n'est pas là, il sort furieux du studio et Coltrane est complètement défoncé devant la porte du studio. Et là, il passe une branle, il le secoue, il le fout devant le micro et là, il joue. Et Miles, il dit, le drame, c'est qu'il joue quand même d'une manière hallucinante. Quoi.
Ouais, comme quoi, il n'y a pas que dans le rock'n'roll qu'il y a des histoires de drogue.
Voilà, ouais. Mais ceci dit, Miles pète un câble, il le vire. Il dit, casse-toi, je ne veux plus te voir. Il s'en va et c'est là où Coltrane réagit. Il s'en met de la drogue, il monte sa formation, il redémarre. C'est l'époque à peu près où il enregistre Giant Steps, qu'on verra sur l'émission prochaine, parce que c'est une des clés de la carrière quand même de John Coltrane, hein, t'es d'accord Nico ?
Ouais, ouais, tout à fait.
C'est une charnière importante. Et Miles enregistre donc Kind of Blue, et là, il veut absolument John Coltrane au ténor. Et il a déjà un autre sax qui s'appelle Julian Cannonball Adderley.
Ouais, qui a l'alto.
Ouais. Alors on dit de Adderley que s'il n'y avait pas eu Coltrane, il aurait été beaucoup plus connu parce que c'est un super saxophoniste, mais bon, quand on a l'ombre de Coltrane...
Donc là, il y a un petit jeu à faire, tout simple. On va écouter le morceau So What de Kind of Blue et il y a les deux saxophonistes qui sont présents. Bon, il y en a un à l'alto hein, ou ténor, si vous arrivez à reconnaître la différence de son des deux, vous allez trouver tout de suite. Mais en gros, qui est Cannonball Adderley, qui est John Coltrane, est-ce que vous allez arriver à différencier leur jeu?
Et alors là, il y a une petite histoire très rigolote hein, qu'on connaît, quand on est un peu jazz, de Miles qui raconte que c'était un régal pour lui d'avoir Adderley et Coltrane sur scène, parce qu'évidemment, son jeu, c'était d'aller voir Adderley et de lui dire « T'as vu ce que joue Coltrane? Il est vraiment génial, ce type. Lui, c'est un grand, il va y arriver, tu vois. » Et donc, ça foutait un peu les boules à Adderley, qui disait « Non, mais qu'est-ce que c'est de conneries ?» Et quand il reprenait le chorus, derrière, il allait voir Coltrane, il disait « Putain, Adderley, il est vraiment fort. Écoute un peu ce qu'il fait, parce que ça vaut le coup, t'as des choses à apprendre. » Et en fait, il les boostait à donf, quoi. Et quand ils s'en sont rendus compte, tous les deux, ils se sont trouvés que c'était génial. Ils ont conduit le petit jeu à se stimuler mutuellement. Et ça a fait un quintet qui est extraordinaire.
Enfin, j'adore l'esprit machiavélique de Miles Davis.
Hein. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Ça m'entoure le peur.
Bon, voilà. Et on a déjà entendu ce morceau dans la toute première émission de Ça c'est Jazz, mais bon, on le repasse parce que c'est la base.
Non, mais Kind of Blue, c'est le disque de chevet. Enfin, sur une île déserte, ouais. Faut emmener au moins ça.
Toutes les bonnes discographies que vous avez écoutées, que vous écoutiez du jazz ou pas, c'est la base, quoi.
Ah, ben c'est clair. Pas vrai, Phil?
Ouais, le technicien confirme.
Ouais, c'est clair. Pour une fois, il confirme du jazz, je vous dis pas. Redaté.
Ouais, on a réussi.
On va le convertir, yes.
Allez, c'est parti, on écoute John Coltrane qui accompagne Miles Davis, morceau.
Et écoutez bien, qui est Adderley, qui est Coltrane? On vous pose la question dans les prochaines émissions.
Allez, à bientôt, ciao.